bonheur, c'est le progrès, faites un pas en avant. Et c'est le progrès, mais ce n'est jamais le bonheur. Alors si on faisait un pas de côté, si on essayait autre chose.
C'est la première fois qu'on fait grève et puis ce sera la dernière, parce que celle-là, on va la gagner.
Ouais, faut arrêter de se faire exploiter, la faute.
Ont fait, ont donné de leur sueur, donné de leur santé, ou même souvent de leur vie, pour faire des bénéfices à une entreprise. Et que quand vous avez des actionnaires qui prennent cet argent, qui se le mettent dans les fous, vous comprenez? On est dans un système pourri.
Ce que le gouvernement est en train de faire, c'est une catastrophe sans nom. On est en train d'écraser la liberté d'expression, on est en train d'écraser les droits et les libertés des salariés, et tout ça, ça cache en réalité la casse du code du travail qui arrive avec Macron, et tout ça sous couvert de l'ultralibéralisme et du travail pour tous. Je pense qu'à un moment donné, il va forcément se passer quelque chose parce que les gens vont pas pouvoir continuer à s'écraser.
Qu'est-ce que tu fais ?
La révolution !
Démobilisation générale, 8e exercice préliminaire. Aujourd'hui, à l'heure dite, on s'arrête, on se parle. Comment tu l'as su, toi ?
J'ai entendu au poste.
Bah oui, moi j'ai toujours entendu annoncer les exercices préliminaires à la radio.
Alors les types de la radio sont avec nous ?
C'est pas qu'ils sont avec nous, c'est qu'on est partout.
Quelle info ?
Bon, je trouve qu'il y en a un petit peu marre des préliminaires.
Bah allons-y, arrêtons tout pour de bon.
C'est la nuit, dans mon lit, les 11h, mal au cœur, déjeuner, mon café, la radio, trop c'est trop, les midis, les parents sont rentrés.
Bonsoir. Vous écoutez le Canu Info du lundi 9 novembre et on commence tout de suite avec les brèves. Ah non, on commence avec les titres.
Avec les titres, et parce qu'il y aura d'abord des brèves, effectivement. Puis, à l'international, nous ferons un sujet donc sur le scandale écologique, social et politique mené par Total et l'État français en Ouganda. Et on aura ensuite un entretien sur la situation au Soudan.
Et puis en national, on parlera des grévistes de la faim qui sont des soutiens aux exilés à Calais.
Et puis au local, on parlera de la nouvelle proposition sécuritaire de Laurent Wauquiez dans les lycées.
Et en dossier, pour clôturer l'émission, on accueillera deux des sept antifascistes qui étaient poursuivis suite à une manif le 28 août. On en a déjà longuement parlé ici et ils sont avec nous en studio. Donc on terminera par une interview de ces deux inculpés, voire relaxés.
Pour relaxés l'un d'entre surtout. Eux.
Mais pas de spoiler.
Mais donc d'abord les brèves.
En Pologne, samedi dernier, des dizaines de milliers de personnes ont manifesté dans 70 villes sous le choc de la mort d'Isabella, victime de la politique anti-avortement polonaise. En effet, depuis fin janvier 2021, une décision du tribunal constitutionnel datant d'octobre 2020 fait force de loi et elle interdit l'IVG en cas de malformation grave du fœtus, ce qui aboutit à l'interdiction de toute interruption volontaire de grossesse, sauf en cas de viol, d'inceste ou lorsque la vie de la mère est en danger. Et pourtant, Isabella, enceinte de 22 semaines, s'est rendue à l'hôpital après une rupture de la poche des os. Des échographies avaient montré auparavant des malformations du fœtus et donc on lui a refusé l'interruption volontaire de grossesse en suivant cette nouvelle législation. Ce n'est qu'à la mort du fœtus constaté par échographie que les médecins ont décidé de procéder à une césarienne, mais c'était trop tard. Isabella est morte d'un choc septique en route vers la salle d'opération. Isabella avait une fille de 9 ans, une famille, des amis, hommage à elle et mort aux politiques patriarcales de contrôle du corps des femmes qui nous tuent chaque jour.
Et puis un petit point COP26, puisque ça ne nous a pas échappé, depuis le 3 novembre, elle se tient à Glasgow. C'est la fameuse grande réunion de tous les pays pour décider de comment arrêter de niquer notre planète et donc de bientôt tous mourir. Si jamais le fait qu'elle ait lieu chaque année et que pourtant les scientifiques continuent à tenir des discours de plus en plus alarmistes sur le réchauffement climatique, si jamais donc ça n'avait pas suffi à vous convaincre qu'elle ne sert pas à grand chose, sachez que cette année, elle accueille 503 lobbyistes des énergies fossiles, ce qui en fait la plus grosse délégation représentée, la deuxième étant le Brésil avec 479 représentants. J'espère que vous êtes contents et contentes de le savoir.
Arnaud Montebourg, candidat à la présidentielle, a proposé dans une émission sur RTL-LCI de bloquer tous les transferts d'argent privés vers les pays qui refusent de rapatrier leurs ressortissants visés par une mesure d'expulsion du territoire français. Empêcher les étrangers résidant en France d'envoyer par Western Union à leurs familles et à leurs amis le peu d'argent gagné souvent au taf les plus mal payés dans des conditions précaires, parfois même sans aucune sécurité au travail ni protection sociale, comme c'est le cas pour les centaines de milliers de sans-papiers exploités par leurs patrons en France, plutôt que d'empêcher les grandes entreprises françaises et européennes de piller les ressources de nombreux pays du Sud, en transférant, elles, allègrement leurs revenus dans des paradis fiscaux. En voilà une bonne idée d'Arnaud Montebourg. Avec Montebourg, c'est en effet la remontada, mais plutôt celle des idées dignes de Zemmour, Le Pen et compagnie, à l'extrême droite toute. Alors espérons que pour lui, les présidentielles, ce sera la Bérézina.
Wow. Et après les brèves, c'est... Bon, c'est l'international, mais on a les petits problèmes habituels.
Ah, voilà.
International. Si, ça marche.
Et donc, je m'introduis moi-même à l'international, un sujet sur Total en Ouganda. Alors, on vous en a déjà parlé il y a un an, tout juste, le scandale de la multinationale Total en Ouganda, donc, un scandale écologique, social et politique. Trois associations, les Amis de la Terre, Survie et l'Observatoire des multinationales, viennent de publier un nouveau rapport particulièrement accablant dans lequel elles démontrent le soutien inconditionnel de l'État impérialiste français à ce projet pétrolier pharaonique mené par Total Energy contre les populations locales et l'environnement. Alors pendant que Macron se pavane à la COP26 à Glasgow, le vrai visage de la politique de l'État français vis-à-vis de l'environnement est bien là, du côté des multinationales qui détruisent la faune et la flore au mépris des populations locales sur plus de 1500 kilomètres. 1500 kilomètres, c'est la taille de l'oléoduc que veut construire Total Energy pour transporter son pétrole brut du lac Albert jusqu'aux côtes tanzaniennes. 1500 kilomètres de pipeline chauffé en permanence à 50 degrés pour fluidifier le pétrole. Projet porté main dans la main par Total, l'État français et le président dictateur d'Ouganda, Yoweri Museveni, qui est président depuis 1986. C'est d'ailleurs l'un des meilleurs élèves du FMI et de la Banque mondiale que l'Afrique n'ait jamais pu avoir. Ce projet était déjà passé devant la justice française par ces mêmes associations françaises pour violation des droits humains et atteinte à l'environnement. Mais figurez-vous que la justice française s'est pour l'instant déclarée incompétente. Alors, les gros impacts de ce projet, principalement, donc, ce sont sur la faune et la flore. Je cite le rapport. Aussi bien dans la zone d'extraction pétrolière que sur le tracé de l'oléoduc, se situent des réserves naturelles à l'importance critique, qui abrite des espèces animales menacées, dont le parc national Murchison Falls, où se trouvent des éléphants, des girafes, des lions, des rhinocéros, des buffles, des léopards et des hippopotames. Les réserves forestières de Taala et de Bougona, où vivent d'importantes populations de chimpanzés. Puis en Tanzanie, la réserve de Biaramula, où se trouvent des lions, des buffles, des élans, des impalas, des hippopotames, des girafes, des zèbres ou des colobes rouges, qui sont des petits singes, je ne le savais pas avant de faire le sujet. La steppe de Verembe, des oiseaux migrateurs en grande quantité et plusieurs habitats pour les éléphants, ce qui fait quand même beaucoup, beaucoup d'espèces menacées. L'installation de ces infrastructures, va tout bonnement compromettre leur survie, mais aussi leur reproduction. De fait, Total pourra exporter 200 000 barils bruts de pétrole brut par jour et son partenaire chinois 40 000, soit des quantités massives de CO2 supplémentaires rejetées dans l'atmosphère jusqu'à 34,3 millions de tonnes par an, soit plus que les émissions combinées annuelles de l'Ouganda et de la Tanzanie à des milliers d'années-lumière donc des discours de Total sur l'environnement. Ce méga projet plus l'extraction au transport a d'ores et déjà poussé de force plusieurs dizaines de milliers de personnes à quitter leurs habitations, laissées à l'abandon le plus total par le régime de Museveni. En plus de ces déplacements massifs, les habitants des zones concernées sont profondément inquiets des accidents comme les fuites de brut. Je cite encore le rapport. Le lac Albert et le lac Victoria, que l'oléoduc va longer sur plusieurs dizaines de kilomètres, sont situés en amont du bassin versant du Nil Blanc. Une marée noire ou une fuite de brut, dont on sait bien qu'elle représente un risque réel. Et ce d'autant plus que le pipeline traversera des zones d'activité sismique, pourrait faire sentir ses conséquences en aval sur des centaines de kilomètres. Le lac Albert, c'est le second plus grand lac de l'Ouganda. Il représente 30% de la pêche du pays. 50 000 pêcheurs y vont pêcher et c'est 100 000 tonnes de poissons par an qui alimentent 1,6 million de personnes dans le pays. Mais le lac Albert, c'est aussi une ressource en eau des plus fondamentales. Des millions de personnes dans plusieurs pays de l'Afrique de l'Est en dépendent. Une autre conséquence évidente de ce gigaprojet, c'est le renforcement de la dictature en place, dirigée par Yoweri Museveni, je vous l'ai dit, donc depuis 35 ans, arrivé au pouvoir par les armes et maintenu par la force de l'armée et des élections systématiquement truquées. Il y a plusieurs années, il a créé une police pétrolière au service de Total pour protéger les intérêts de la multinationale française qui, on l'imagine bien, doit gravement financer le régime en retour, comme à son habitude. En Ouganda, les opposants, les ONG sont traqués, réprimés, emprisonnés ou tués. Les petits paysans et les habitants des zones rurales sont touchés par les projets pétroliers. Eh bien, ils n'ont jamais évidemment leur mot à dire. Alors Total dans tout ça, et pour terminer, c'est ce qu'explique le rapport Total, pour influencer les gouvernements et les institutions en France et à l'international, pratique le lobbying. Pour l'année 2020, Total déclare, et uniquement pour le sommet de l'iceberg, entre 510 000 et 875 000 euros pour la France, pour du lobbying en France, et à Bruxelles, entre 2 millions 250 000 euros. Total bénéficie massivement de ce qu'on appelle le pantouflage, c'est-à-dire l'échange de personnel entre les conseils d'administration des grandes entreprises, des banques, du secteur privé et les institutions étatiques et des gouvernements. Un exemple, l'actuel PDG de Total, Patrick Pouyanné, de son joli nom, est issu de Polytechnique et du Corps des Mines. Il a travaillé au ministère de l'Industrie sous Balladur et dans plusieurs cabinets ministériels dans les années 80 et 90, avant de rejoindre ELF, l'ancêtre de Total, puis Total. En ce qui concerne l'État français, le rapport est très clair. Le soutien apporté par Emmanuel Macron aux multinationales françaises s'inscrit dans une tradition bien établie qui voit les présidents de la République se faire accompagner des grands patrons dans leurs visites officielles à l'étranger et annoncer à ces occasions la signature de nouveaux contrats pour les entreprises. Pour l'Ouganda, l'État français s'est porté garant du projet à travers une conversation directe entre Macron et Patrick Pouyanné. Alors en conclusion, la COP26, tous les blablabla pour reprendre notre chère amie Greta Thunberg, ne sont que de la pure foutaise. La protection de l'environnement, la protection des populations civiles, la fin des régimes autoritaires, voire la fin des régimes tout court, tout ça ne pourra se faire qu'en sortant purement et simplement du capitalisme. Et ça, eh bien, ça ne se fera pas par les élections de 2022.
Et non, et pour rester dans notre rubrique internationale, on écoute tout de suite une interview sur la situation au Soudan.
Bonjour Hamad, merci de répondre à nos questions. Peut-être pour commencer, est-ce que tu veux bien te présenter, nous dire ton lien avec le Soudan et nous parler un peu du média Sudfa auquel tu participes ?
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je m'appelle Hamad Jamal, je suis d'origine soudanaise. Je suis exilé en France depuis 2017. Le média Sudfa est un petit blog participatif franco-soudanais créé par un groupe d'amis et militants français et soudanais. Nous nous donnons pour l'objectif de partager ou traduire des articles écrits par des personnes soudanaises ou co-écrits par personnes soudanaises et françaises sur l'actualité et l'histoire politique, sociale et culturelle du Soudan et la communauté soudanaise en France.
Donc le 25 octobre dernier a eu lieu un coup d'état militaire au Soudan, perpétré donc par l'armée contre l'aile civile du gouvernement. Donc ce coup d'état a mis fin au processus de transition vers la démocratie. Est-ce que tu peux nous rappeler ce qui s'est passé entre les mobilisations de 2018, ces émeutes de la faim et ce coup d'état militaire aujourd'hui?
Ce que se passait entre la mobilisation de 2018 et le coup d'état du 25 octobre dernier, qu'il y a un accord qui a été signé entre les civils et les militaires en août 2019, selon lequel les militaires et civils vont partager le pouvoir pour 3 ans dans le cadre de ce qu'on appelle le gouvernement de transition. L'accord est bien précisé que dans le premier temps, les militaires qui seront à la tête de ce gouvernement et dans le deuxième temps, c'est les civils qui seront à la tête de ce gouvernement avant qu'il y aura une élection en 2023. le militaire a un rôle politique et stratégique parce que le Soudan un des pays qui est largement contrôlé par les militaires depuis son indépendance et jusqu'à nos jours. En 1958, et juste après l'indépendance du Soudan de 12 ans, il y a eu un coup d'État qui a été fait par le général Abboud. Et puis en 1967, il y a eu un autre coup d'État qui a été fait par le général Nimeiri. En 1989, c'était le coup d'État d'Al-Bashir qu'il est arrivé au pouvoir. Il est resté 30 ans. Et le 25 octobre dernier, le dernier coup d'État, voilà, c'était par le général Al-Burhan. Donc voilà, les militaires restent toujours présents au sein politique soudanais.
Dès le coup d'État, on a vu qu'une grande résistance populaire s'est organisée et mise en place. Est-ce que tu peux nous dire comment elle s'est exprimée? Est-ce qu'elle a été spontanée? Est-ce qu'elle a fini par se structurer?
Depuis que le coup d'État a été annoncé, les Soudanais ont largement contesté cette coup d'État. Ils ont descendu dans le rue pour exprimer leur colère et leur rejet contre le coup d'État. Donc, les syndicats des étudiants, les syndicats de travailleurs, le comité de résistance, les partis politiques, le groupe religieux et toutes les catégories sociales, ils ont rejeté cette coup d'État qui considère comme un obstacle pour la transition démocratique.
Est-ce que tu peux nous préciser ce que c'est que les comités de résistance et comment ça fonctionne?
Le comité de résistance, il s'agit de groupes organisés par des quartiers, par des habitants. C'est un groupe qui est composé de différentes catégories sociales, des femmes, des hommes, des personnes âgées, de jeunesse, et des étudiants, des travailleurs, pour l'objectif de coordonner localement avec les habitants en faisant le lien avec l'autre groupe dans d'autres quartiers.
Malheureusement, la répression apparemment a été aussi très forte. On compte plusieurs morts suite à des tirs à balles réelles. Est-ce que tu peux nous faire un petit bilan de la répression en cours?
Malheureusement, la répression a été forte cette fois, notamment de la part des militaires et la milice de forces rapides. Le comité de médecins compte au moins de dizaines de morts et centaines de blessés.
Et par rapport à 2018, quel changement existe dans les relations entre le gouvernement civil de transition et la population?
Le lien entre la population et le gouvernement de transition, ça restait toujours un lien de confiance et méfiance en même temps. Parce que la population savent très bien que ils ont des liens en commun avec les civils. Donc, ce n'est pas le moment de fâcher ou de manifester contre les civils, parce que nous, eux, ou en tant que civils, on a les mêmes objectifs. On a les mêmes objectifs, c'est de faire installer un gouvernement démocratique qui représente le peuple soudanais et qui répond à leurs besoins. Pendant le gouvernement de transition, il y a eu un peu de déception de la part des militants soudanais parce que le gouvernement civil de transition a été pas à l'auteur de leur attente. Donc on avoue qu'il y a pas mal de critiques, même ils ont organisé plusieurs manifestations pour faire la pression le gouvernement de transition civile d'aller plus loin dans le changement et dans l'installation du système démocratique. Nous, en tant que population soudanaise ou en tant que parti politique civil, on a les mêmes objectifs. On a les mêmes objectifs. D'abord, c'est de faire dégager les militaires. Et puis voilà, il y aura une autre discussion. Mais cette fois, je pense qu'il y aura d'autres acteurs sur le scène politique, mais pas l'ancien.
Et si on parle un peu du contexte international, qu'est-ce que le coup d'État a changé dans les rapports de force internationaux? Est-ce qu'il a été soutenu par certaines puissances régionales ou internationales? Et pour quelles raisons?
Malgré le rejet international et local du coup d'État au Soudan, il y a des pays qui ont continué à soutenir le coup d'État. Parmi ces pays, la Russie, qui cherche en place au Soudan pour installer sa base ou sa première base militaire en Afrique. Donc, le Soudan, stratégiquement, c'est le meilleur pour la Russie pour installer sa base militaire. Et pour cela, il soutient Al-Burhan aujourd'hui, stratégiquement et technologiquement et militairement. Aussi l'Israël, qui cherche de normaliser sa relation avec le Soudan et qui a commencé par l'accord de Al-Burhan et Netanyahu. Donc, Israël, ce qu'il cherche aujourd'hui, de garder le gouvernement ou l'acteur actuel, parce que cela le permet d'installer, cela le permet de normaliser sa relation avec le Soudan.
Depuis le coup d'État, beaucoup de manifestations de soutien ont été enregistrées en France, mais aussi partout dans le monde, dans d'autres pays. Quel rôle joue cette pression internationale et qu'est-ce qu'il faut en attendre?
Oui, on a vu une grande mobilisation de la part de la diaspora soudanaise dans le monde entier, notamment en France, pour l'objectif de soutenir le peuple soudanais financièrement et moralement. Et pour leur dire que voilà, on est là avec vous, on est là pour la révolution, on est là pour le changement total et radical de l'histoire du Soudan. Mais en même temps, pour dénoncer la collaboration de l'Union européenne avec la malice de forces rapides qui le finance depuis plusieurs années, dans l'objectif de lutter contre l'immigration clandestine. Donc, l'Union européenne a une responsabilité de ce qui se passe au Soudan. C'est pour ça que nous sommes là pour dire, nous, avec le peuple soudanais, contre tous les milices et tous les partis qui font l'obstacle aujourd'hui vers un chemin de transition démocratique et en même temps contre toutes les alliances de milices et la militaire.
Et comment est-ce qu'on fait pour soutenir la révolution soudanaise?
Comment vous pouvez soutenir la révolution soudanaise? Aujourd'hui, comme il y a une grande mobilisation, donc on lance un appel pour tous les militants français et françaises de participer les manifs dans toutes les villes françaises. Aussi, voilà, si vous avez des possibilités d'organiser un tableau rond ou en discussion autour de la révolution soudanaise, nous serons prêts à venir pour discuter et échanger avec les militants et les peuples français. Donc, pour le moment, il n'y a pas de cagnotte, mais peut-être ce sera dans le retour. Mais en attendant, nous vous invitons à rejoindre à les manifestations que dans toute la ville, à Paris, à Lyon, etc. D'ailleurs, si vous voulez avoir de contact avec des militants soudanais, vous pouvez contacter le réseau de militants soudanais à Lyon, RAS, R-A-S, c'est un groupe sur Facebook où vous pouvez trouver toute l'information concernée.
Et vous êtes toujours sur Radio Canu, la plus rebelle des radios. Il est 19h27, vous écoutez les infos, vous venez d'écouter une interview autour de la situation au Soudan et tout de suite on écoute un son d'une rappeuse soudanaise, Rima Major, et ça s'appelle Double Time.
Time flow. corner, snap on the track. Every time that I rap on the clap, any rap that we try to talk back, we're forward to Mac. I don't know how to act, can't hide in my drink, so I never ever yak. Smoke blunt to the face, take a trip to the moon. With boonies, low boonies, fun cartoon. Hit run when I come through, I'm so bossy. Rest out of frosty, shoes mad quasi, but it don't faze me. I'm real crazy, pretty like a daisy. If you pay me, whoa, I think I'm really gonna stop. Wanna see the top, OG's see me pop. Go ahead and call the cops, but you never get caught. You can do what you do, but you never get caught. As long as I'm here, I'm flat here, ain't gotta wake it out. I got a lot of hair, Q, I'm fly, I'm pressed like so. Straight back, grass, gonna call me his dough. Yeah, I'm ill, motherfucker, I'm ill. Eat what I wanna, just put it on the bill. Understatement when describing why. Mess around and make your kicks disappear like voila. That's prime, try me. I be wanting them commies. Honey, don't ever cross me. Consequences is costly. Awfully flossy. Risk is frosty. Yeah, bossy. Niggas tell you bitches to get off me. Killer demeanor. My name is Rima. I'm hella mean. I came and take it all in one sweat. Katrina, her buzz is sinking. I renamed the Titanic. I hop on stage in the whole room. Get subtly manic. Second time around, yeah, slow you down. Some slow listeners. Roll with them sharpies, send them autographs of fan pictures. They're feeling the kid, they're digging the swag. Whoa, I'm in the truck, but using the cab. I'm at the counter, bitch, you're peeping the tag. Boom, you're doing nada, but I'm up in the lab. And it's a rap, yeah.
It's a rap. Rima Major, the illest kid. 15, I am legend. You already know what it is. G7 up in there.
Et vous êtes toujours sur le Canu Info, vous venez d'écouter Double Time de Rima Major et tout de suite on passe à l'actu.
National.
Et on commence tout de suite par un sujet sur la grève de la faim à Calais.
Oui, voilà, parce que le ministère de l'Intérieur, donc Gérard Darmanin, a décidé d'empêcher toute formation et reformation de jungle à Calais. Et en réaction, trois militants et soutiens des exilés ont entamé une grève de la faim le 11 octobre. Deux d'entre eux la poursuivent encore aujourd'hui. S'ils sont en grève de la faim, c'est, comme vous vous en doutez, parce qu'éviter les bidonvilles d'exilés pour le ministre de l'Intérieur, ce n'est pas leur donner un toit et des murs dignes, mais plutôt d'envoyer sans cesse la police, expulser tout rassemblement, chassant encore et encore des gens qui, malgré le vol permanent de leurs affaires, couvertures, tentes, etc., ne vont pas disparaître. Et il serait environ 1500. Autrement dit, parce qu'on ne veut pas voir leur misère, ces exilés qui cherchent pour la plupart à rejoindre l'Angleterre sont condamnés à errer sans cesse, dans des conditions encore pires que s'ils pouvaient s'arrêter dans un bidonville. Car s'arrêter et se rassembler, c'est aussi une façon de recevoir plus facilement l'aide des soutiens. Donc ces expulsions, qui sont en ce moment et depuis plusieurs mois quasiment quotidiennes, sont souvent accompagnées de violences. Elles ont poussé trois personnes à commencer une grève de la faim, avec les revendications suivantes. L'arrêt immédiat des expulsions quotidiennes et des démantèlements de camps pendant la trêve hivernale, ainsi que la fin des vols d'affaires. Donc, et puis, l'ouverture d'un dialogue sur la distribution de produits de première nécessité. À celle-ci, le gouvernement a répondu en envoyant le directeur général de l'OFI, Didier Léchy, en tant que médiateur. Et celui-là même ne croit pas qu'il puisse y avoir un accord trouvé, et il le dit dans les médias. Mardi, la semaine dernière, une proposition est faite. La fin des évacuations surprise et 45 minutes pour que les évacués aient le temps de récupérer leurs affaires. Et des propositions de logement en dehors de Calais. Les grévistes et les associations derrière ne considèrent pas que c'est suffisant. Et c'est clairement insuffisant. Les évacuations surprises, c'est déjà horrible et c'est bien la moindre des choses qu'elles n'aient plus lieu. Mais ça ne rend pas la chasse permanente de ces exilés, même en les prévenant la veille, plus humaine. Autre proposition donc, celle d'héberger un peu plus d'un millier de personnes en dehors de Calais. Encore une fois, ça ne passe pas, puisqu'à Calais se trouvent essentiellement des exilés, soit anglophones, soit qui ont des contacts en Angleterre, et c'est donc là-bas, et donc pas dans un pays où ils ne connaissent rien, si ce n'est la police, qu'ils veulent aller. Et les déplacés revient à leur retirer la possibilité d'atteindre le pays dans lequel ils veulent construire une vie. Et donc on en est là. Presque un mois après le début de la grève de la faim, rien de concret. Et malheureusement, c'est assez mal parti. Il semblerait que Darmanin veuille démontrer qu'il est capable de se débarrasser des campements d'exilés. Et il veut le faire par la force, aussi stupide que soit sa stratégie. Les exilés de Calais étant souvent afghans, syriens ou érythréens, ils ne sont pas expulsables de France car leur pays d'origine n'est pas considéré comme sûr. Et la France a le devoir de les accueillir convenablement. Car, je le répète, les exilés de Calais ne vont pas disparaître.
Et tout de suite, on passe à l'info
Local.
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 Je sais pas si on a entendu.
Si, je crois.
si, c'est bon.
Et du coup, on commence avec un sujet de notre cher Laurent Wauquiez, régional. Et encore des mesures bien sécuritaires.
Et oui, le 19 juillet dernier, Laurent Wauquiez dévoilait son plan priorité sécurité pour la région Rhône-Alpes-Auvergne. Toujours plus d'argent pour les politiques sécuritaires, puisque la région avait annoncé, dès l'ouverture de l'assemblée plénière estivale de l'assemblée régionale, doubler le budget qu'elle concède à la sécurité pour atteindre les 300 millions d'euros. Ce plan priorité sécurité inclut donc l'augmentation des effectifs de la police ferroviaire, le déploiement d'un dispositif de reconnaissance faciale, mais aussi, cerise sur le gâteau, la création d'une brigade régionale de sécurité dans les lycées. Une équipe sera recrutée d'ici la rentrée prochaine et cette brigade régionale sera déployée dans les lycées de la région Auvergne-Rhône-Alpes dès l'année 2022. Renaud Pfeffer, vice-président de la région délégué à la sécurité, explique en détail cette semaine dans la presse que l'effectif de la brigade sera divisé en plusieurs unités de 3 personnes, anciennement militaires ou gendarmes ou issus du secteur de la sécurité de l'éducation nationale. Les agents seront clairement identifiés avec des tenues spécifiques et des équipements de protection. Au même titre que les agents de sécurité, le vice-président ajoute « ils auront surtout un gabarit ». Et donc, après les portiques, dont l'efficacité reste encore à démontrer, qui ont quand même coûté 90 millions d'euros à la région, ce seront encore des dépenses supplémentaires pour une politique du tout sécuritaire dans les lycées, puisqu'il explique que le coût de cette brigade reste encore à définir, mais que des modèles économiques, dans le cadre d'un marché avec des entreprises de sécurité privées, sont à l'étude. On a donc un beau programme de mise en place de milices privées payées par la collectivité qui auront toute liberté à intervenir en dehors mais aussi dans les lycées, voire dans les cars scolaires. Donc il y a quand même des personnels de l'éducation nationale qui font effectivement le constat d'une hausse des tensions et des violences dans les lycées depuis le retour à la soi-disant normale post-Covid. Mais ces tensions sont liées justement à la crise sanitaire Covid-19 et surtout à ses conséquences sociales et psychiques sur les jeunes et les adolescents. Et puis, ces tensions sont liées aussi à Parcoursup et aux nouvelles réformes de contrôle continu, de semestrialisation et aux classes toujours surchargées qui poussent les élèves et les personnels à bout. En grève le 23 septembre, les personnels de l'éducation nationale exigeaient plutôt de réduire la taille des classes pour enseigner autrement et favoriser la réussite des élèves, de titulariser, recruter davantage, former mieux, rémunérer plus, de gagner les moyens pour une école ouverte à tous et toutes les élèves, notamment les élèves avec des besoins particuliers, donc avec le recrutement d'AESH, et de créer un vrai secteur médico-social de l'éducation nationale. Donc alors que les classes sont surchargées et face à la crise sanitaire et sociale, la nécessité d'avoir plus de personnel, c'est une évidence pour les personnels de l'éducation nationale, mais c'est de personnels médico-sociaux, d'auxiliaires de vie sociale et d'AESH, de surveillants et surveillantes, d'enseignants et d'enseignantes qu'ont besoin les lycées, et pas de matons privés.
Et avant de passer à notre interview du jour, on écoute tout de suite, et c'est bien d'actualité, Liberté de Soul King et Ouled El Badja.
Liberté, c'est tout ce qui nous reste. fais passer tout noir. Il n'y a plus personne que des photos, des mensonges, que des pensées qui nous rangent. C'est bon, emmenez-moi là-bas. Oui, il n'y a plus personne là-bas, il n'y a que le peuple. Che Guevara, ma top, emmenez-moi là-bas.
Toujours sur Radio Canu, la plus relaxe de toutes les radios, et c'est le Canu Info du lundi.
Et oui, on passe à notre interview du jour. Alors, on a déjà beaucoup parlé ici, hein, mais pour rappel, en septembre, souvenez-vous, 7 personnes ont été interpellées dans le cadre d'une enquête suite à une altercation avec des militants du groupuscule ultra-réactionnaire Civitas. Vous savez, hein, c'est ces cathos intégristes qui militent pour le retour du royaume du Christ-Roi. Alors parmi ces 7 inculpés, 4 d'entre eux avaient été placés en détention le 23 septembre en l'attente de leur procès. On en a longuement parlé ici, et particulièrement de ces détentions préventives injustes. Ce jeudi se tenait donc le procès des 7 inculpés. Je rappelle aussi qu'il n'y avait aucune plainte qui avait été déposée par les supposées victimes de Civitas. On a appris durant le procès que c'est un commandant d'une brigade qui enquête d'ordinaire sur les cambriolages qui s'est saisi lui-même de l'affaire. On a quelques doutes sur ses liens avec Civitas. S'en est suivi donc une enquête menée uniquement à charge, truffé de vices de procédure. Pour le détail, on vous invite à écouter le reportage du Canu Info du vendredi, hein, pour nous parler du déroulé du procès. Alors, on va quand même parler de la vidéosurveillance qui a été au centre des débats, avec un scellé qui ne fonctionnait pas, une vidéo sciemment tronquée par la police et des réquisitions formulées 4 jours après le délai légal. Cette vidéo a donc été au centre des discussions. Parmi toutes les nullités qui ont été soulevées par les avocats de la défense, nombre d'entre ces nullités ont été reçues, et entre autres cette vidéo, ce qui a laissé un dossier complètement vide. L'essentiel des prévenus ont donc été relaxés de la charge de groupe. Non, l'ensemble des prévenus a été relaxé de la charge de groupement en vue de commettre des violences. 3 ont été relaxés des violences en réunion, donc 3 sont totalement relaxés dans cette affaire. Les 4 autres ont été condamnés à des contraventions de 300 euros pour des violences simples, donc les violences en réunion étaient requalifiées en violences simples. Et parmi les inculpés, il y en avait 2 qui avaient, un qui avait refusé de donner son ADN et un autre son code de téléphone. Pour ces 2 délits commis en conséquence des interpellations, ils ont donc écopé de 1 mois de sursis. Alors c'est une victoire sans appel, hein, enfin on espère, qui a laissé le procureur en sueur. Mais c'est aussi quand même 1 mois et demi de tôle gratos. À eux 4, ça fait 160 jours de privation de liberté pour finalement écoper d'amende. Donc ça reste scandaleux, mais on est quand même très content d'accueillir ce soir Grécos et Mehdi, qui ont tous les 2 passé du temps en zonzon. Grégos, il est sorti ce jeudi, et Mehdi, il y a 3 semaines, après son passage devant le JLD. Merci à vous d'être ici ce soir.
Merci à vous de nous recevoir. Merci.
On est content de vous voir en chair et en os, et pas derrière la vitre d'une box d'un tribunal.
Alors pour commencer, chacun votre tour, comment s'est passée l'interpellation, puisque vous avez été interpellé dans des conditions différentes, et ensuite comment s'est passée la garde à vue, qu'est-ce que vous ont dit un peu les flics en garde à vue?
Bon, je vais commencer.
Vas-y,
donc moi c'est Grécos. Du coup l'interpellation, en fait on a su en gros à 6h du matin qu'il y a un des 7 en fait qui était recherché par la police. Du coup on s'est inquiété parce qu'on pensait que c'était pour une autre affaire, qu'il y avait, enfin une affaire qu'on ne connaissait pas. Moi je me suis un peu occupé de dire aux potes de regarder s'il n'y avait pas l'avocat dispo pour lui au cas où. Et moi je suis descendu du coup je dormais pas chez moi en fait ce soir-là. Du coup je descends de où je dormais. Je peux... voilà. Ah ouais. Et j'arrive en bas et j'allais pour aller à ma formation en fait. Du coup j'étais en cours de formation. Et en bas, il y avait trois individus, louches, quarantaine,
suspect.
Voilà, donc qui étaient déplacés à certains endroits de la rue et qui, je me demandais ce qu'ils faisaient là parce qu'il y avait rien d'ouvert dans cette rue où j'étais. Et après, je me suis dit bon, je me fais peut-être un film parce qu'il y a un collègue qui est recherché par la police. Enfin, bref, voilà, je me rends à ma formation, je fais une bonne heure et demie de formation. Et à la pause, en fait, je sors à la pause pour prendre un café. Une personne m'interpelle, me dit de venir. Je pensais que c'était un enseignant pour un papier que j'avais peut-être pas rendu. Après, le mec était très très louche. Franchement, c'était comme les années 80. C'était, pour vous faire l'image, ses petites lunettes, cheveux longs, gras, gris, plaqués en arrière et blouson en cuir, quoi. C'était vraiment ça. Et il me chope et il me dit va chercher tes affaires, il y a la police tout autour de l'immeuble, ça sert à rien de fuir, donc, et ça sert à rien de faire autre chose, calmement tu descends et on te menottera pas sous les vues de tout le monde.
Ouais. On vient quand même te chercher dans les couloirs,
c'est ça,
mais...
sur ton lieu de travail.
Sur mon lieu de travail. Ouais. Donc voilà, donc après bah en fait j'ai un peu en panique, et puis un peu choqué du truc, je prends mon sac et bah en fait je descends, je le suis et en fait finalement je me fais menotter quand même devant l'immeuble de la formation avec 3 voitures de la BAC qui m'entouraient et puis direction chez moi en fait pour la perquisition de mon appart. Et voilà. Et il m'a dit pourquoi j'étais là dès le départ. Il m'a dit que c'était pour une bagarre dans une manif.
Ok. Et toi, ton interpellation, Mehdi, s'est passé comment?
Moi, c'était chez moi, à 6h du matin. Ils sont venus, ils ont cassé ma porte. Les doigts foncés, elles ne se fermaient même plus. Okay. Pendant plus de 2 heures. Quand ils sont rentrés, ils ont braqué ma mère. Moi, je ne le savais pas, vu que j'étais dans ma chambre. Déjà, quand ils ont braqué, ma mère, elle a crié super fort. Je me suis réveillé. Bon, au début, je croyais que c'était un rêve. Je ne mens pas.
Ouais.
Après, je suis retourné dans ma chambre, me suis allongé dans mon lit, croyant me rendormir. Au final, quand ils ont dit bougez pas, il est là. Bah, j'ai su que c'était réel, c'était pour moi. Après, j'ai mis les mains derrière le dos, et là, à ce moment-là, ils sont venus. Mais là, ils m'ont défoncé.
Ah
ils
ouais.
m'ont mis
ouais.
dans les côtes, coups de coude dans la tête. Quand je me plus, c'était les cagoulés qui sont venus chez moi, je sais pas c'était lesquels. Quand je les ai regardés, ils ont pas vraiment aimé, ils sont vengés en plus, je pense. Hein. Ils m'ont tapé la tête contre le mur, et tout. D'un coup, ils m'ont dit, tu sais pourquoi on est là? Je leur ai dit non, vous allez me le dire. Ils me disent c'est une affaire d'un mois en arrière. Je vais être en train de réfléchir. Je me disais c'est quoi cette affaire et tout. Limite, j'ai envie de leur dire, je sais même pas ce que j'ai mangé hier. Et voilà, ouais, après, ça a été assez violent et disproportionné, surtout pour ce qui s'est passé. Ouais.
Déjà, de défoncer la porte sans frapper, ils font souvent ça, mais ils pourraient essayer de frapper, parce que ça marche la plupart du temps.
C'est ce que ma mère avait dit, en plus.
Et du coup, après, la gaffe, comment ça s'est passé?
Moi, j'ai réalisé que... Enfin, j'ai commencé à réaliser qu'on était plusieurs, parce que j'ai aperçu des visages derrière les cellules de la garde à vue. Et alors moi, ça s'est passé très très bizarrement. En fait, c'est un peu à l'image du flic en fait qui m'a arrêté. Je suis arrivé dans un bureau sans menottes. Lui, il était avec son café et il me dit ouais, on se connaît depuis longtemps. Hein, ça fait 15 ans qu'on se connaît. Puis en gros, il m'a refait la liste de toutes les arrestations que j'ai eues par le passé quand j'étais gamin. Enfin, des trucs comme ça. Puis après, je suis passé à un autre enquêteur et l'autre enquêteur, lui, pour le coup, lui faisait carrément l'inverse. Bon, je suis là, on m'a un peu obligé à faire ça, mais d'habitude je fais du cambriolage, parce que du coup c'est la BREC qui nous a fait l'enquête. La BREC, c'est brigade
de répression des cambriolages.
Voilà, c'est ça.
Logique implacable.
Donc voilà, logique. Et lui, il nous dit, je dis, mais qu'est-ce que vous faites Enfin, pourquoi vous m'interrogez? Il fait, écoutez, moi, on m'a saisi, votre affaire, elle est politique, on m'a dit de m'occuper de ça en priorité, donc voilà, mais en gros, ça le gonflait, soi-disant. Ouais. Mais après, j'ai su pendant la... l'interrogatoire, que c'est lui aussi qui s'est occupé d'une grosse affaire qu'on avait peut-être parlé il y a longtemps, mais d'une attaque au Roquenit qui a été assez violente. C'est lui qui a fait les investigations de cette affaire-là. Donc j'ai trouvé quand même ça bizarre qu'il y avait autant de liens.
Oui, et on peut peut-être ajouter que donc les Civitas, ils n'ont pas porté plainte, non. Mais en revanche, il y a eu des contacts directs entre les enquêteurs et une personne de Civitas qui a gardé son anonymat, on ne sait pas pour quelle raison, durant toute la procédure. Et que du coup, ça indique quand même qu'il y a des liens entre cet enquêteur-là, en tout cas, et les membres de Civitas qui sont un peu louches.
Clairement. Clairement. C'est, nous, dès le départ, on savait qu'il n'y avait pas de plainte et pas d'ITT. Et même sur le PV, hein, les flics ont fait le tour des hôpitaux pour savoir, ils ont quand même fait tout le tour des hôpitaux pour savoir si le mec, il est quand même allé se faire poser un pansement ou pas, quoi.
Okay. Et toi, du coup, la garde à vue, comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui te dit un peu les flics?
C'était à peu près pareil que Gricos. Mais bon, après, moi, il me posait plus des questions un peu pour chercher ce que je faisais vraiment et tout. Est-ce que tu fais partie d'un groupe? Est-ce que tu vas à la chasse? Est-ce que tu fais ci? Pourquoi tu as des photos de ça? Pourquoi tu as des photos de ci? Ouais. Est-ce que tu savais si c'était Civitas ou pas? Bon, plein de trucs.
Ouais,
vraiment pour chercher le vrai du faux et tout, en gros.
Et clairement, c'était pas tellement sur les faits qui vous interrogeaient, mais plutôt sur votre appartenance à un groupe politique qu'ils estiment être un danger. Voilà. Mais du coup, vous avez très clairement vu que ce qui les intéressait, c'était pas tellement de la recherche de la vérité autour des faits, mais plutôt d'inculper des antifascistes, quoi.
C'est ça.
C'est aussi un peu ce qu'on a ressenti de l'extérieur.
Ouais. Les seules preuves qu'ils ont pris chez nous, je pense que ça doit être pareil un peu chez toi. Moi, c'est les seules photos qu'ils ont fait chez moi, c'est les photos des stickers ou des affiches qu'il y avait dans mon appartement.
Ouais. Enfin, voilà.
Dont ils ont aussi beaucoup parlé pendant le procès.
D'ailleurs, du coup, à l'issue de cette garde à vue, vous êtes passé donc devant tous, hein, les sept inculpés, devant un juge des libertés de la détention, puisque le procureur a demandé l'incarcération immédiate et le placement en détention provisoire pour les sept. Alors, comment ça s'est passé, ce passage devant le JLD?
Alors, du coup, on est au petit dépôt, sous le tribunal de grande instance. Hein, donc là, on a commencé à voir qui c'est qu'il y avait d'autres dans l'affaire, parce qu'on était dans un commissariat différent, donc on ne savait pas vraiment qui était... voilà. Donc on a pu se voir les sept au petit dépôt. Et du coup, on est passé devant... Donc on passe d'abord devant la procureure qui descend. C'est la seule qui descend au petit dépôt, nous voir dans un bureau. Et elle demande mandat de dépôt pour tout le monde en attendant...
Bon, mandat de dépôt, c'est directement incarcéré.
Voilà, directement à la prison en attendant le procès, vu que c'était une CI différée. Et elle nous avait annoncé la date, c'était le 4 novembre. Donc voilà, donc on passe tous les uns après les autres. Elle nous annonce ça, 4 novembre. Et vous allez attendre en prison. Et là, on monte les uns après les autres. Donc, le premier qui est passé, lui, il a été libéré sous contrôle judiciaire. Donc, on était un peu contents. On s'est dit, surtout que les avocats étaient très confiants et confiantes. Ils étaient persuadés qu'on allait tous sortir. Et surtout que le premier est sorti. Du coup, on s'est dit, bon, c'est vrai qu'on va peut-être sortir. Et là, ça a commencé après à se détériorer. En fait, les uns après les autres, on est commencé à tomber, les quatre, en fait. Et très très mauvaise ambiance. Enfin, nous, on était Bon, on était au bout du rouleau, énervement, cris, pleurs.
Les chants aussi, t'as oublié.
Il y a eu les chants. Et du coup, je pense à pas mal peut-être perturber les autres qui ont pu être libérés. Je pense que ça les a choqués. Ils étaient autant choqués que nous, parce que nous voir, on se voyait. C'est vraiment ça l'ambiance.
D'autant qu'effectivement, les avocats étaient plutôt optimistes parce que le dossier était complètement vide. Visiblement, c'est.
Même la police, elle me disait, t'as perdu 48 heures de travail, il m'avait dit. Ouais. Même lui, il pensait même pas que j'allais tomber, tellement, je pense.
Mais du coup, ça montre bien que c'était un procès éminemment politique. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu du début de l'incarcération, quand vous arrivez en tôle, que vous atterrissez, quoi?
Sachant que vous n'êtes pas placé dans la même prison l'un et l'autre.
Alors du coup, moi j'étais à Villefranche-sur-Saône, Mehdi, lui, à Corba. Alors en fait, on était placé comme ça, c'est pas parce qu'il n'y avait pas de place ou des trucs comme ça. Alors moi, j'ai été carrément, c'était marqué sur le papier, c'était marqué à éloigner du reste du groupe. Donc moi, tout seul, je devais être éloigné de tous les autres. Donc pourquoi? Parce qu'ils imaginent qu'il y a encore des leaders, des chefs, des machins. Et puis surtout que j'étais le premier identifié sur les vidéos, donc c'est peut-être pour ça aussi. Et du coup, Villefranche-sur-Saône, c'est vraiment pas drôle. Et du coup, quand on arrive en fait en prison, on est aux arrivants. Pour ceux qui savent pas, les arrivants, c'est une zone tampon en fait, où on est un peu chouchouté et très très surveillé pour les risques au suicide et pour savoir aussi dans quel bâtiment on va nous mettre après. Donc Villefranche, nous, c'est le seul moment où on a la douche en cellule. Et moi, je me suis retrouvé avec un co-détenu qui est arrivé aussi aux arrivants avec moi. Ça s'est très très bien passé avec lui. Aux arrivants, on a une seule promenade par jour. On n'a pas le droit encore aux cantines. On a une cantine d'arrivants, c'est très très minime. Et ça dure. Alors nous, à Villefranche, c'était quand même assez carré par exemple pour ça. Corba, ils vont vous dire que c'est pas la même chose. Mais nous, c'était au moins 4 jours aux arrivants. Et ensuite, on passait dans un bâtiment, c'est nouveau, c'est à cause du Covid, c'est bâtiment Covid. Donc on passe 8 jours en bâtiment Covid avant d'être affecté dans un bâtiment normal.
Peut-être juste dire, la cantine, c'est le magasin en fait de la prison, c'est ce qui permet d'obtenir un peu plus que le petit kit d'hygiène qui se file à l'entrée.
Voilà.
Et toi, Corba, alors, comment ça se passe ton arrivée?
Moi, Corba, c'était déjà juste avec les deux autres incarcérés. Au début, on a fait la promenade ensemble. Après, quand on est arrivé là-bas, ils ont dit, la juge elle avait appelé la prison de Corba. Ils nous ont dit, en gros, il faut les séparer, les trois. Bon, après, ça n'a pas vraiment trop bien séparé. Hein. Franchement, ils ont fait un peu mal le travail. Mais tant mieux, d'un côté. Ils voulaient séparer. Y en a un des deux incarcérés avec moi. Il est resté plus de 22 jours aux arrivants. Lui, le pauvre, il a galéré un peu. Un des deux autres aussi, pareil, il est resté plus de 15 jours. Je crois peut-être un peu moins. Moi, quand ça va, je suis resté une semaine. Mais franchement, pareil aussi. Après, c'est un peu plus. C'est un peu moins galère que toi pour faire les. Au début, c'est 20 euros de cantine. Ça, c'est, t'as rien. T'as même pas le tabac. Quand je suis parti en bâtiment, j'ai fait une semaine. Par contre, j'ai attendu 2 semaines pour pouvoir faire une cantine. J'ai pas compris alors que j'avais une cantine. J'avais déjà fait une cantine avant. Avec le reste de l'argent. Après, j'avais reçu mon argent. Mais par contre, là-bas, ils montent pas tout de suite quand on reçoit le pécule. Le pécule, c'est l'argent qu'on reçoit.
Ouais.
Et j'ai attendu plus de 3 semaines. J'ai même pas eu ma cantine. En gros.
Ouais, parce que toi, du coup, t'es passé devant le JLD au bout de 3 semaines et t'as été libéré.
En appel.
Heureusement, en appel, voilà, c'est ça.
Et toi, par contre
Je suis passé en appel. Une fois en appel, une fois en DML. DML, c'est la demande de mise en liberté. Les deux ont été rejetés, refusés. Et du coup, j'étais réincarcéré. Enfin, je suis retourné à ma cellule, quoi. Moi après perso j'ai lâché l'affaire dès l'appel, dès que ça a foiré l'appel pour moi je restais jusqu'au 4 novembre en fait. Donc voilà.
Et du coup ça change un peu la détention quand
ça change l'ambiance. Ouais. En fait quand on a l'appel, on a les avocats et tout, ils nous disent faut tenir bon, l'appel ça va le faire, tu vas juste rester 2-3 jours, on se dit allez c'est une mauvaise expérience, on va essayer de profiter de cette expérience pour réfléchir ou je sais pas quoi. Quand l'appel il marche pas, on commence à prendre nos habitudes et à se dire en fait on va rester là peut-être longtemps en fait, parce qu'on sait tous que devant le juge de façon incarcéré, donc pas libre, on a de grandes chances de retourner en prison après.
C'est sûr que
Alors, juste, on précise à tout le monde que il est bientôt 20h, mais que l'émission Blasphème FM ne devrait pas avoir lieu. Donc, on va largement déborder sur les 20h. On mettra tout sur le blog des Canu Info. Donc, on va continuer cette interview particulièrement passionnante. Du coup, toujours toi, Gréco. On sait que on t'a proposé, entre guillemets, lourdement, de manière assez lourde, un stage de prévention de la radicalité. Est-ce que tu peux nous dire, alors on sait ce que c'est normalement, mais pourquoi on te l'a proposé à toi?
T'étais déjà sorti.
Et même, je crois que c'est parce que tu dis arabe, en fait.
Alors, moi, on me l'a proposé, je pense, en fait, j'étais un peu naïf, franchement. Je me suis dit... Alors en plus, on me l'a proposé, pour vous dire, on me l'a proposé au retour de ma DML en fait, qui a été refusée. Et à ma DML, on m'a répété tout le long de ma DML, on n'est pas là pour faire de la politique, je suis là pour juger des faits, patati. Ouais. Et moi, j'arrive à la prison, la SPIP me chope dans le couloir, elle me fait « oui, on va sûrement vous proposer ». Enfin, il y a des, en gros, il y a un organisme qui m'a vous proposé un stage de prévention contre la radicalisation. Et du coup, j'ai un peu souri jaune. Ouais. Et j'ai dit, en fait, vous proposez ça à tout le monde ou... ou c'est que je suis ciblé? Et du coup, elle m'a fait des gros yeux. Elle m'a fait, c'est peut-être parce que vous êtes là pour de la politique. Et du coup, ça m'a un peu énervé parce que je me suis dit, en fait, soit je suis là pour la politique, soit je suis pas là. Mais à un moment, faut me le dire. Et j'ai appris, en fait, que je me suis fait un peu avoir sur ma première semaine d'incarcération. C'est que j'ai été interrogé par un surveillant hein, qui était comme tous les autres surveillants. Je pouvais pas le distinguer des autres. Et donc c'était aux arrivants. Donc c'est la période en plus on a besoin de parler. Et moi il m'a parlé dans un bureau. Il m'a dit bon t'es là pourquoi? Bon moi j'ai dit pourquoi j'étais là. Et il m'a dit ah je me suis renseigné. T'es antifasciste. T'es proche du groupe antifasciste Lyon Environ. J'ai vu sur leur site internet. Vous faites des trucs super. Des concerts. Patati. Puis moi j'ai dit bah oui on fait. Là, on nous dit qu'on fait que de la violence. Et puis moi, voilà, comme un con. Oui, bah moi, j'ai réalisé des concerts. On fait venir des écrivains. T'es bien engagé. Depuis combien de temps? Et puis, bon, enfin, j'étais très naïf. Et je pense que voilà, je me suis livré. Et du coup, il m'a placé sur les détenus radicalisés, en fait. Mais clairement, en fait, c'est-à-dire qu'en prison, il y a une liste de détenus radicalisés, et j'étais sur cette liste.
Qui sont normalement, jusque-là, principalement constitués par les islamistes.
Ouais, c'est ça, ouais. On m'a dit que si je participais au stage, est-ce que ça ne me dérangeait pas d'être qu'à 90%, c'était pas des gens qui étaient là pour la politique, enfin, gauche-droite, sur les trucs comme ça, quoi.
Ouais, ça fait rêver.
Si vous voulez, on m'a présenté un peu le planning. Donc en gros, c'était une journée où on débat citoyenneté, laïcité. une journée où c'est mon engagement, mes choix, comment ils influent sur ma vie en bon et en moins bon. Il y avait de la sophrologie.
Excellent. C'est sympa ce stage. Voilà.
Et c'est ça. Et des fois, un intervenant, un avocat qui venait nous expliquer ce que c'est la loi et qu'est-ce que ça apporte de bien à la loi quand même.
Ok. Voilà. Très bien.
C'est sympa.
Nous voilà arrivés à peu près au procès.
Oui.
Donc, qui était jeudi dernier.
Bah, est-ce que vous pouvez un peu nous raconter comment ça se passe, dans quel état d'esprit vous étiez avant le début de l'audience et voilà, bon, toi déjà, le départ de la prison, comment...
Ouais, l'extraction.
Et l'arrivée au tribunal, qui est différente, évidemment, entre les incarcérés et ceux qui ne le sont pas.
Ouais, du coup...
Vas-y, Mehdi.
Moi, c'était vite fait. Non, j'étais stressé depuis 3 semaines déjà. je suis arrivé déjà, j'étais arrivé avec ma mère. Enfin, ma mère, elle est venue me rejoindre. Je voulais pas qu'elle vienne parce que pour la stresser, mais elle est quand même venue. D'un côté, heureusement. Ouais. Pendant le jugement, la juge, après, elle posait, entre guillemets, des questions, d'où, hein, et d'un coup, je sais pas pourquoi, elle me demande si je fais la chasse. Pourquoi je fais la chasse et tout, et je sais pas pourquoi, moi, avec l'autre collègue qui était en prison aussi, elle s'est beaucoup énervée contre nous, je sais pas.
Ouais.
Franchement, c'était un peu compliqué. Ça. Par contre, ça m'a stressé.
Ouais, elle a fait des interrogatoires particulièrement agressifs.
Surtout vis-à-vis de certaines personnes, les trois incarcérés, et toi, Mehdi, notamment. Ouais.
Clairement.
Et ça stressait un peu.
Ouais, puis c'était vénère.
On a vu la différence de traitement quand même à ce moment-là.
Et pour nous, pour la prison. Alors, moi, j'attendais cette date-là depuis le début. Et en fait, j'étais à la fin, j'étais ultra stressé, j'avais même presque pas envie d'y aller. parce que j'avais peur de la réponse en fait. Voilà. Et bah, l'extraction, en fait, ça, on vient nous chercher en cellule à midi à peu près. On est extrait avec plusieurs prisonniers. On arrive dans les mêmes cellules sous le tribunal que quand on est parti il y a 6 semaines en arrière. Et bon, là, moi, je suis bien sûr en Villefranche, ils sont pas au top sur les horaires. Je suis tout le temps arrivé en retard à tout. Et là, je suis arrivé, bah, je pense que tout le monde m'attendait, en fait. Je suis arrivé, je suis rentré dans ma cellule, j'ai bu une gorgée d'eau et on m'a remonté directement au tribunal. Et là, ultra impressionné parce que la salle était blindée de monde. C'était.
Ça faisait du bien de voir ça.
Ouais, voilà, ça faisait du bien et émouvant en même temps. Et puis, bah, par contre, la vitre, quoi. Enfin, on arrive dans une cage en vitre. Donc, les trois détenus de l'affaire, en fait, on arrive en même temps, démenottés, avec les flics quand même derrière nous, dans la cage. Et en fait, justement, les avocats ont commencé tout de suite à plaider sur ça, sur le fait de nous sortir de la cage. On nous a raconté qu'on serait à égalité avec les autres qui sont en liberté. Mais bon.
Ça fait pas le même effet.
Non,
hein.
C'est pas.
Peut-être juste revenir là-dessus sur ces plaidoiries des avocats qui étaient très intéressantes, c'est que le procès il a commencé là-dessus sur la demande de faire passer les trois inculpés incarcérés de l'autre côté de la vitre du box, de sorte à ce que le traitement il soit effectivement égal, parce qu'en effet ça produit pas du tout le même effet. Ils sont appuyés sur un certain nombre de conclusions de la Cour européenne des droits de l'homme, notamment qui parle de l'humiliation que constituent ces box, cet encagement, et voilà, et notamment qui a condamné la Russie pour ces pratiques là
de la mise en question de la présomption d'innocence. C'est du ça. Coup quand t'arrives déjà incarcéré, la présomption d'innocence un coup quand même assez sévère.
Moi, il y a des gens de ma famille qui ont rien à voir avec qui font pas de la politique, qui s'intéressent pas forcément à ce que je fais. Je pense que j'en ai pas encore parlé, mais je pense que l'image quand ils m'ont vu arriver derrière une vitre et des flics derrière moi, je pense dans leur tête, même s'ils me soutiennent et tout, je pense qu'ils disaient, il a peut-être fait quand même quelque chose.
Évidemment. Bon, par contre, elle n'a pas du tout accédé à la demande des avocats concernant de vous sortir du box.
Ouais.
Bon, je pense que ça aurait pu faire jurisprudence, mais néanmoins, c'est quand même une question intéressante qu'ils ont soulevée et qui a immédiatement mis le procès dans une dimension extrêmement politique. Quoi.
Clairement.
Alors ensuite, dans le déroulé du procès, il y a eu les demandes de nullité dont tu as un peu parlé tout à l'heure, notamment sur les caméras de vidéosurveillance, la géolocalisation et les perquisitions. Et on a attendu la fin du procès pour savoir si certaines de ces demandes, donc ces vices de procédure, étaient validées ou non. Et ensuite, on a débouché sur les réquisitions assez vite, les interrogatoires des uns et des autres, puis les réquisitions du procureur. Les réquisitions du procureur... aller de 2 mois de prison avec sursis pour la personne qui était le moins, enfin à qui on demandait le moins, jusqu'à quand même
2 ans
de prison, dont 1 an avec sursis. Alors à ce moment-là, comment ça se passe là dans vos têtes les autres?
Encore ça va, j'ai demandé 6 mois, donc j'aurais l'aménagement de peine.
Ouais.
Mais bon, tu fais tes calculs dans ta tête au moment
direct,
où tu prends.
Est-ce que je pourrais sortir ou pas? Est-ce que je retourne là-bas? Non. Même six mois, un aménagement de peine, ça le fait quand même.
Ouais.
Ben nous, bracelet et tout.
Nous derrière la cage, nous c'était l'enfer.
Ouais, ouais.
Nous on commençait à s'énerver et en plus moi, un peu sous le choc qu'elle commence à demander des peines de prison ferme aussi grosses, et en fait j'ai mal. En plus on n'entendait rien derrière cette vitre, et moi j'ai confondu ce qu'elle a demandé exactement, 3 ans d'interdiction de manifester pour moi et 1 an de prison. Et en fait je me suis arrêté à 3 ans, et dans ma tête quand je suis allé dans le box derrière pour attendre. Pour moi, il avait demandé 3 ans en fait.
Ouais,
okay. On était vraiment pas bien. Enfin, nous, on était les trois, on était pratiquement sûr qu'on repartait au moins quelques mois en prison. Quoi.
Oui, parce que les trois d'entre vous, il y en a 2, c'était 1 an de prison, dont 6 mois avec sursis demandé par le proc, et 3 ans d'interdiction de manifester, et un troisième, c'était 2 ans, dont 1 avec sursis, et 3 ans d'interdiction de manifester.
Exactement. Ouais.
Hyper violent comme réquisition.
Ouais.
En plus, très, 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 très courte et sans beaucoup d'arguments, sans beaucoup argumenter sur la réalité de la situation.
Et pas très brillant, le procureur.
Même on peut dire que c'était un gros naze, je pense. Ouais.
S'il nous écoute.
C'est vrai que ce moment-là, bon, il y avait un gros rassemblement dehors. Voilà, et je crois que tout le monde dans le public était quand même un peu sous le choc des réquisitions. Mais ensuite, on a eu plusieurs heures de plaidoirie des avocats.
Ouais.
Ça remonte un peu le moral.
Moi j'attendais ça. C'est ce que j'essaie de calmer les autres potes en fait, en leur disant vous inquiétez pas, tous nos avocats vont devoir parler et ils vont nous défendre. Enfin, ça va nous faire du bien. Et ils sont pas loupés. Là, franchement, moi, c'est bon, c'est pas mon premier procès, mais voilà, franchement, je croyais que j'étais dans un film. Je reviens pas encore.
C'est clair.
Ouais. C'était magnifique. Puis c'était fait vraiment avec le cœur, pas que avec les lois, les patatis, les.
Ouais, le dossier a vraiment été énormément travaillé par les avocats, à la fois sur toutes les nullités, mais aussi sur plaider le fond politique de l'affaire. Le dernier avocat, il a plaidé quasiment une heure.
Une heure et demie.
Et puis, il a rappelé quand même à plusieurs reprises que ce soit les flics ou le parquet de Lyon, hein, sur les différentes plaintes qui ont été déposées ces dernières années suite à des attaques des fachos dans les pentes de la Croix-Rousse à la Plume Noire sur des militants.
Radio Canu.
Exactement. Que soit elles sont classées sans suite, soit elles ne sont même pas transmises au parquet. Donc, il y a vraiment, ce type de procès, ce type de procédure, ce que vous avez mangé dans la tronche, là, ça prouve bien que le parquet et les flics sont véritablement du côté de l'extrême droite.
Je crois que la mauvaise foi du ministère public, elle a été démontrée, et je pense qu'elle a que la juge a été convaincue de la mauvaise foi ministère public dans cette affaire. Et du coup, je vais nous parler du moment du verdict.
Tout le monde s'est mis à laisser prendre les bras.
Nous, c'était étrange derrière la vitre, parce que je sais pas si c'était pour toi, Mehdi, pareil, mais nous, on se regardait, franchement, on n'a rien compris du début à la fin des condamnations.
C'est vrai, vous êtes allé voir les avocats.
Et en fait, au fur et à mesure, on comprenait rien. Donc, on sait pas si on était condamné, si on retournait en prison et tout. Et franchement, on a dû comprendre un centième de seconde avant qu'elle dise la séance est levée. Et en fait, là, tout le monde s'est levé.
Il a crié le long de chiffre.
On regardait en nous applaudissant et du coup, on a dit putain, mais on est libre en fait.
C'est vrai que c'était un bon moment. Au final, quand même, il y a trois inculpés qui sont relaxés, dont toi, Mehdi, complètement des deux chefs d'inculpation groupement.
On rappelle que t'as quand même fait un peu plus de trois semaines de prison gratos.
Et vous êtes quatre à avoir été condamnés pour des faits de violence, mais sans la circonstance aggravante de réunion, à 300 € d'amende, et deux d'entre vous, un mois de prison avec sursis pour refus d'ADN et refus de donner les codes de
déchiffrement. Des délits que vous n'auriez jamais commis
si on n'était pas interpellé
train à les commettre. Peut-être la sortie de prison
pour toi, Gréco, quand même.
C'était magnifique. Il faut savoir aussi, c'est que quand on est libre, pour ceux qui savent pas, en fait, quand on est incarcéré et qu'on est libre, c'est pas on sort, on voit nos parents, merci, au revoir. On lève l'écrou, ça s'appelle. Du coup, faut qu'on rentre à la prison, on récupère nos affaires dans notre cellote, on enlève nos écrous, donc on enlève nos empreintes de la prison, ils nous font un papier comme quoi pour pas se faire contrôler dehors, comme quoi on est évadé. Mais sauf que nous à Villefranche, on était 8 à rentrer, donc pas de cette affaire, hein, mais d'affaires différentes, donc 7 qui devaient être réintégrés en cellule, et moi le dernier. Et du coup, ça a duré des heures, donc je suis sorti à 2h30 du matin, mais j'ai eu un accueil magnifique qui a bien fait chier les surveillants. Il y a eu grosse banderole, fumigène, enceinte avec de la musique à bloc. Donc les surveillants m'ont sorti
de la bière.
Les surveillants m'ont sorti avec ils étaient avec leur gilet pare-balles, ils gueulaient sur. En gros, ils m'ont dit si les potes se retirent pas de devant la porte, ils me laissent pas sortir.
Bien sûr.
Mais en tout cas, c'est 2h30. Je sais même pas que c'était 2h30 du matin. Je suis après, mais c'était magnifique. Et voilà. Mais après, un point sur. Alors, c'est une super victoire et tout, mais on a quand même fait.
Six semaines de prison pour trois d'entre vous et 3 semaines de prison pour Mehdi. On le pardonnera jamais au parquet et aux flics de Lyon. Ça, c'est évident qu'on laissera pas ça passer. D'ailleurs, si vous voulez un peu plus de détails sur cette affaire et sur le procès, vous pouvez réécouter le Canu Info de vendredi de la semaine dernière, qu'on a pas mal parlé. Il y a eu un certain nombre de communiqués qui ont été diffusés sur Internet, notamment sur ce super site qui s'appelle Rébellion. Une tribune signée par 119 personnalités médiatiques, des avocats, des juristes, des universitaires, etc., qui a été publié sur Mediapart le 25 octobre plutôt. Et donc vous pouvez avoir beaucoup des infos un peu en détail, un peu plus que même cette interview.
Et puis surtout, il va y avoir beaucoup d'autres dates parce que je pense qu'il y a quand même une lutte à mener en effet pour obtenir réparation parce que c'est pas rien que de priver de liberté des gens pendant aussi longtemps et pour que dalle. Et que c'est important de réaffirmer tous ensemble que l'antifascisme n'est pas un crime.
N'est pas un crime, ça c'est sûr. Et qu'il n'y a pas de quartier pour les fachos. Et que la solidarité est notre arme. Tout ça, c'est des slogans qu'on veut porter haut et fort.
Et que crève la tôle aussi. Voilà,
et que crève la putain de tôle, ouais.
Et que parce que la détention provisoire, c'est, enfin, s'il y en a qui pensent qu'il y a une différence entre détention provisoire et prison normale condamnée, en fait, il n'y a aucune différence, hein, c'est pareil. Il n'y a pas.
C'est au même endroit.
C'est au même endroit, c'est les mêmes gens, c'est, voilà. Et il y a d'autres procès qui nous attendent aussi, donc.
Et ben en tout cas merci les potos
d'être beaucoup
venus.
Les gars, c'était super cool comme interview.
Ça fait plaisir que vous soyez sortis et voilà et on continue la lutte.
Et merci aussi à toutes les personnes qui étaient là qu'on n'a pas dit merci encore qui étaient dehors ce jour-là dedans et voilà, franchement heureusement que tout le monde était là.
Qu'ils ont soutenu.
Ouais. Surtout. Merci.
Et ben merci à vous. De toute façon, on a complètement débordé sur l'horaire, donc on a bien le temps pour un petit agenda.
Allez, tant qu'on y est, un petit agenda. Donc, mercredi 10 novembre de 16h à 20h, il y aura la permanence de santé à l'espace communal de la Guillotière au 45 rue Béchevelin à Lyon 7e. Cette permanence aura lieu tous les 2e et 4e mercredis du mois de 16h à 20h.
Et puis samedi, donc le 13 novembre, il y a une rencontre autour de l'ouvrage « Nous vous écrivons depuis la Révolution, récit de femmes internationalistes Rojava ». C'est à 15h à la librairie La Griffe et donc ça c'est 5 rue Sébastien Griffe, Lyon 7.
Samedi toujours 13 novembre, il y a un appel à soutien et à mobilisation à la frontière avec une manifestation organisée à Briançon. Un rendez-vous est donné à 14h devant la médiathèque de Briançon.
Et puis dimanche, c'est les portes ouvertes de l'illégalité. Donc l'illégalité, c'est un squat d'organisation à Villeurbanne. C'est de 14h à 18h. Il y aura une visite du lieu, des crêpes, présentation du lieu, des collectifs et des activités qui ont lieu. Et puis un karaoké.
Ah oh.
Et dimanche...
Original. Karaoké.
Dimanche toujours, il y a un goûter-concert en soutien aux jeunes qui dorment dans des tentes dans le jardin de la Grande Côte sur les pentes de la Croix-Rousse. C'est de 15h à 17h face à l'inhumanité des politiques migratoires, solidarité de quartier dans les pentes de la Croix-Rousse. C'est le deuxième dimanche, ça a déjà eu lieu le 7 novembre et ça aura encore lieu le 28 novembre.
Et j'ai oublié de vous le dire, il y a vendredi 12 novembre, une nouvelle journée de mobilisation appelée par l'intersyndicale des agents de la ville de Lyon.
Qu'on avait reçu ici,
interviewé notamment un camarade de la CGT Ville de Lyon, qui n'ont toujours eu aucun retour positif sur la dégradation de leurs conditions de travail, notamment l'augmentation du temps de travail et sur l'attaque sur le droit de grève, donc menée de front par Europe Écologie Les Verts et les élus France Insoumise. Voilà, donc on n'oublie pas ça non plus.
Bossetti,
vendredi 12.
Ni oubli ni pardon.
Voilà.
Et donc sûrement des nouvelles de cette mobilisation lundi prochain. C'est fini pour ce soir, à lundi prochain.